Bienvenue dans Actualité du Pape. L'Église universelle, vous le savez, fête les Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël chaque 29 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Ces trois archanges sont présents dans la Bible à des degrés divers. Notre Saint-Père, le Pape François, a souvent résumé leur rôle par ces trois verbes: combattre, annoncer, accompagner. Saint-Michel défend nous dans le combat, dans lequel nous luttons pour le salut. Saint Gabriel apporte-nous la bonne nouvelle de Jésus Sauveur, donne-nous l'espérance. Saint Raphaël, prends-nous par la main, aide-nous sur le chemin de notre pleine guérison. Dans son tweet du 29 septembre 2020, notre Saint-Père invitait à invoquer ces trois archanges au quotidien. Comme tous les anges, les archanges sont des envoyés de Dieu auprès des hommes. Leur nom se termine par le mot « El », qui signifie « Dieu » en hébreu. Les archanges sont envoyés pour nous accompagner dans la vie, disait le pape François lors d'une homélie à Sainte-Marthe en 2017. Saint Grégoire le Grand les qualifiait ainsi. Les archanges sont plus que des anges, parce que ce sont eux qui annoncent les plus grands mystères. Ce pape, docteur de l'Église, détaille ainsi le rôle des archanges. Il faut savoir que le mot « ange » désigne leur fonction, d'être messager. Et l'on appelle archange ceux qui annoncent les plus grands événements, écrit Saint Grégoire le Grand dans ses homélies sur l'Évangile. Pour le pape François, il nous accompagne résolument sur le chemin de la vie vers le salut. Saint Michel aide à faire la guerre au diable qui cherche à nous faire tomber dans le péché, expliquait alors le Saint-Père. Saint Gabriel est celui qui apporte la bonne nouvelle du salut. Et Saint Raphaël, quant à lui, est notre compagnon de voyage, précisait le pape François, avant d'expliquer combien les anges et nous avons la même vocation, celle de coopérer au projet de salut de Dieu. Pour coopérer à ce projet, chacun de ces trois archanges s'est vu assigné par Dieu une fonction précise. L'archange Michel, renommé pour son épée, et le prince des anges, le chef, il joue un rôle décisif dans l'Apocalypse, mais aussi en général dans la lutte contre les forces du mal. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, est-il écrit dans le livre de l'Apocalypse. Michel signifie « qui est comme Dieu ». Michel est le champion du primat de Dieu, de sa transcendance et de sa puissance. L'archange Michel lutte pour rétablir la justice divine. Il défend le peuple de Dieu de ses ennemis et surtout de l'ennemi par excellence, le diable. Et Saint Michel vint, parce qu'en lui, c'est Dieu qui agit, affirmait le pape François lors de la bénédiction de la statue de l'archange dans les jardins du Vatican. De fait, la présence de l'archange Saint-Michel, patron de l'État de la Cité du Vatican, est très prégnante dans la ville éternelle. Il trône par exemple en haut du château Saint-Ange. Depuis le sommet de ce monument, ancien mausolée de l'empereur Hadrien, Saint-Michel est apparu au pape Grégoire le Grand en 590. Brandissant, puis gainant son épée, il annonça la fin de l'épidémie de peste bubonique ravageant alors l'Europe. Au XVIIIe siècle, fut donc érigée une statue de bronze en son honneur. Saint Gabriel Archange est lui considéré comme le messager fidèle et attentif de Dieu, le diplomate. Son nom signifie « homme de Dieu, force de Dieu ». On le connaît surtout dans le Nouveau Testament pour ses apparitions à Zacharie et à Marie. Lorsque Dieu veut faire une grande annonce, il envoie Gabriel. Gabriel remplit là une mission qui correspond bien à l'un des rôles constants des anges, transmettre aux hommes les appels de Dieu et ses indicateurs, rapporter à Dieu les pensées et les demandes des hommes qui se tournent vers lui. Saint Gabriel est ainsi le patron des télécommunications, mais aussi celui des ambassadeurs, des diplomates et des transmissions militaires. Quant à Saint Raphaël Archange, dont le nom veut dire « Dieu guérit », il est la figure bienveillante de la providence de Dieu. Lorsque Dieu veut faire avancer quelqu'un sur le chemin de vie, il envoie Raphaël. Dans le livre de Tobie, Raphaël est envoyé par Dieu pour guérir la cécité de Tobit, le père de Tobie. Il accompagne également le jeune Tobie dans son voyage. L'Église honore Saint Raphaël comme le patron des voyageurs sur terre, sur mer et dans les airs, et également le protecteur des fiancés. Dans son discours adressé samedi 24 septembre aux jeunes participants de l'événement de l'économie de François dans la ville ombrienne d'Assise en Italie, notre Saint-Père le pape François a mis en exergue l'urgence de reconstituer le capital spirituel, qui est essentiel et qui génère une joie de vivre nécessaire à l'économie. L'événement voulu par le pape François s'est réalisé à Assise, où étaient réunis près de 1000 jeunes, économistes, entrepreneurs et acteurs du changement venus de 120 pays. Pour le Saint-Père, ces jeunes vivent une période de crise environnementale, de pandémie, de guerre en Ukraine et d'autres conflits qui durent depuis des années dans différents pays. Et ils sont appelés à devenir artisans et bâtisseurs de la maison commune. Une maison qui tombe en ruine, déplore-t-il. Notre génération vous a légué de nombreuses richesses, mais nous n'avons pas su préserver la planète. Et nous ne préservons pas la paix, affirme-t-il. Soulignant qu'une nouvelle économie, inspirée par François d'Assise, peut et doit être aujourd'hui une économie respectueuse de la terre et une économie de paix. Il s'agit de transformer une économie qui tue en une économie de la vie dans toutes ses dimensions. Le pape François a exprimé sa satisfaction sur le choix de modeler cette rencontre d'Assise sur la prophétie. La vie de François d'Assise, après sa conversion, dit-il, a été une prophétie qui se poursuit également à notre époque. Dans la Bible, la prophétie a un lien avec les jeunes, fait savoir le Saint-Père. Prenant en guise d'exemple Samuel, qui était un garçon lorsqu'il a été appelé. Jérémie et Ézéchiel, qui étaient jeunes. Daniel, qui a prophétisé l'innocence de Suzanne et l'a sauvée de la mort. Et le prophète Joël, qui a annoncé au peuple que Dieu répandrait son esprit et que les fils et les filles deviendront des prophètes des nations. Faisant référence aux Saintes Écritures, le pape estime que les jeunes sont porteurs d'un esprit de connaissance et d'intelligence. C'est le jeune David qui a humilié l'arrogance du géant Goliath, rappelle le pape François. En effet, lorsque la communauté civile et les entreprises ne disposent pas des compétences des jeunes, c'est toute la société qui s'étiole. La vie de chacun s'éteint. Le pape note un manque de créativité, d'optimisme et d'enthousiasme, tout en évoquant qu'une société et une économie sans jeunes sont pleines de tristesse et de pessimisme. Une économie qui s'inspire de la dimension prophétique s'exprime aujourd'hui dans une nouvelle vision de l'environnement et de la terre, dit le Saint-Père, invitant ces jeunes à suivre la voie de ceux qui ont déjà opté pour une conversion écologique. Le pape François estime qu'il faut remettre en question le modèle de développement. La situation est telle que nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre le prochain sommet international, a dit le souverain pontife, qui ne cache pas son inquiétude par rapport à ce qu'il a bien pu observer. La terre brûle aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que nous devons changer à tous les niveaux. Au cours de cette rencontre sur l'économie de François, le pape a également axé son intervention sur le paradigme végétal, qui contient une approche différente de la terre et de l'environnement. Les plantes, selon lui, savent coopérer avec leur environnement. Et même lorsqu'elles sont en concurrence, elles le font pour le bien de l'écosystème. Apprenons de la douceur des plantes, exhorte-t-il. Leur humilité et leur silence peuvent offrir un style différent dont nous avons urgemment besoin. Car si nous parlons de transition écologique, mais que nous restons dans le paradigme économique du XXe siècle, qui a spolié les ressources naturelles et la terre, les manœuvres que nous adoptons seront toujours insuffisantes. L'heure d'un nouveau courage a sonné, affirme-t-il, pour abandonner les sources d'énergie fossile, pour accélérer le développement de sources à impact nul ou positif. Le pape François exhorte aussi à accepter le principe éthique universel, selon lesquels les dommages doivent être réparés. Si nous avons grandi en abusant de la planète et de l'atmosphère, aujourd'hui nous devons aussi apprendre à faire des sacrifices dans les modes de vie qui ne sont toujours pas durables. Sinon, ce seront nos enfants et petits-enfants qui paieront la facture, une facture qui sera trop élevée et trop injuste, souligne le pape. Pour qui un changement rapide et décisif est nécessaire. François en a profité pour inviter cette jeunesse à montrer l'exemple. Pour le pape, l'aspect social revêt aussi un caractère primordial. Il établit un lien entre le cri des pauvres et celui de la terre, qui est le même. Par conséquent, affirme-t-il, lorsque nous œuvrons à la transformation écologique, nous devons garder à l'esprit les effets que certains choix environnementaux ont sur la pauvreté. Il invite à privilégier ceux qui réduisent la misère et les inégalités. Sauver la planète pour le souverain pontife est certes une bonne action, mais il est aussi important de ne pas négliger l'homme et la femme qui souffrent. De même que pour lui la pollution qui tue n'est pas seulement le dioxyde de carbone, l'inégalité pour lui pollue aussi mortellement notre planète. Le pape François conseille de ne pas permettre que les nouvelles calamités environnementales effacent de la vue du public les calamités anciennes, toujours présentes. Le premier capital de toute société est le capital spirituel, affirme le pape François. Car c'est lui qui donne les raisons de se lever chaque jour et d'aller travailler, et qui génère la joie de vivre, qui est également nécessaire à l'économie. Le monde actuel, selon le pape François, consomme rapidement cette forme essentielle de capital accumulée au fil des siècles par les religions, les traditions de sagesse et la piété populaire. Les jeunes souffrent donc particulièrement de ce manque de sens, dit-il. Souvent confrontés à la douleur et aux incertitudes de la vie, ils se retrouvent avec une âme appauvrie en ressources spirituelles pour traiter la souffrance, la frustration, la déception et le deuil. La fragilité de nombreux jeunes provient du manque de ce précieux capital spirituel. Un capital invisible mais plus réel que le capital financier ou technologique, déclare le pape François. Il est urgent de reconstituer ce capital spirituel essentiel. À en croire le pape François, la technologie peut faire beaucoup. Elle apprend le quoi et le comment à faire, mais elle ne dit pas le pourquoi. Et ainsi, nos actions deviennent stériles et ne remplissent pas la vie. Pas même la vie économique, estime le Saint-Père. Étant à Assise, dans la ville de Saint-François, le pape n'a pas pu s'empêcher de penser à la pauvreté. Faire de l'économie en s'inspirant de Saint-François, c'est s'engager à mettre les pauvres au centre. Il n'y a pas d'économie de François, affirme le souverain pontife, sans estime, sans soin, sans amour pour les pauvres, pour chaque personne fragile et vulnérable. Du conçu dans le ventre de sa mère, à la personne malade et handicapée, à la personne âgée en difficulté. L'économie franciscaine ne peut se limiter à travailler pour ou avec les pauvres. Tant que notre système produira des déchets et que nous fonctionnerons selon ce système, nous serons complices d'une économie qui tue, poursuit-il. Saint François n'aimait pas seulement les pauvres, il aimait aussi la pauvreté. Il rappelle également que François est allé vers les lépreux, non pas tant pour les aider, mais parce qu'il voulait être pauvre comme eux. À la suite de Jésus-Christ, il s'est dépouillé de tout pour être pauvre avec les pauvres. Le Saint-Père a exhorté à regarder le monde à travers les yeux des plus pauvres. Tout comme le mouvement franciscain qui a pu inventer les premières théories économiques et même les premières banques de solidarité, les Monti di Pietà au Moyen-Âge, parce qu'ils regardaient le monde à travers les yeux des plus pauvres. Le pape François a enfin appelé les jeunes à ne pas oublier le travail. Il les a invités à ne pas oublier de créer du travail, du bon travail, du travail pour tous, tout en créant des biens et des services. Selon lui, le changement économique se fera si, en plus du cœur et de la tête, ces jeunes utilisent également leurs mains. Les idées sont nécessaires, dit-il, elles nous attirent beaucoup, surtout quand nous sommes jeunes. Mais elles peuvent se transformer en pièges si elles ne deviennent pas de la chair, du concret, a conclu notre Saint-Père, le pape François. Notre Saint-Père, le pape François, se rendra à Bahreïn du 3 au 6 novembre prochain. Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé, mercredi 28 septembre, un nouveau voyage apostolique pour le pape François. Il se rendra au royaume de Bahreïn, un état insulaire situé près de la côte ouest du golfe Persique, du 3 au 6 novembre prochain. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rendra dans cet état insulaire d'Arabie, au Moyen-Orient, qui compte près de 1 million d'habitants. Entre le 3 et le 6 novembre 2022, le pape François visitera les villes de Manama et Awali, à l'occasion du forum de Bahreïn pour le dialogue intitulé « Orient et Occident pour la coexistence humaine ». La prière est une aide indispensable au discernement spirituel, a déclaré le pape François. De manière graduelle, mais efficace, elle nous rend de plus en plus capables de reconnaître ce qui est essentiel, ce qui jaillit du fond de notre être. C'est ce que le pape a dit en s'adressant aux personnes de langue française à l'audience générale de ce mercredi 28 septembre, place Saint-Pierre. Poursuivant son cycle de catéchèse sur le discernement, le pape a souligné que discerner n'est pas une chose facile, car les apparences sont trompeuses. Mais la familiarité avec Dieu, a-t-il poursuivi, peut dissiper les doutes et les craintes. En voici la lecture de cette catéchèse. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous reprenons les catéchèses sur le thème du discernement, parce que le sujet du discernement est très important pour savoir ce qui se passe en nous. Des sentiments et des idées. Nous devons discerner d'où ils viennent, où ils mènent, à quelle décision. Et aujourd'hui, nous nous focalisons sur le premier de ces éléments constitutifs, qui est la prière. Pour discerner, nous devons être dans un environnement, dans un état de prière. La prière est une aide indispensable au discernement spirituel, surtout lorsqu'elle implique les affects, permettant de s'adresser à Dieu avec simplicité et familiarité, comme on parle à un ami. C'est savoir aller au-delà des pensées, entrer dans l'intimité avec le Seigneur, avec une spontanéité affectueuse. Le secret de la vie des saints est la familiarité et la confiance en Dieu, qui grandit en eux et leur permet toujours plus facilement de reconnaître ce qui lui est agréable. La prière véritable est la familiarité et la confiance en Dieu. Ce n'est pas réciter des prières comme un perroquet. La vraie prière est cette spontanéité et cette affection avec le Seigneur. Cette familiarité vainc la crainte ou le doute que sa volonté ne soit pas pour notre bien. Une tentation qui traverse parfois nos pensées et rend le cœur agité et incertain ou amer. Le discernement ne prétend pas à une certitude absolue. Ce n'est pas chimiquement une méthode pure. Non, il ne prétend pas à une certitude absolue car il s'agit de la vie. Et la vie n'est pas toujours logique. Elle comporte de nombreux aspects qui ne peuvent être enfermés dans une seule catégorie de pensée. Nous aimerions savoir avec précision ce qu'il faut faire, et pourtant, même lorsque cela se produit, nous n'agissons pas toujours en conséquence. Combien de fois avons-nous fait nous aussi l'expérience décrite par l'apôtre Paul qui dit ceci: je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Nous ne sommes pas seulement faits de raison, nous ne sommes pas des machines. Il ne suffit pas de recevoir des instructions pour les exécuter. Les obstacles comme les aides pour se décider pour le Seigneur sont avant tout affectifs, de l'ordre du cœur. Il est significatif que le premier miracle accompli par Jésus dans l'évangile de Marc soit un exorcisme. Dans la synagogue de Capharnaüm, il délivre un homme du diable, le libérant de la fausse image de Dieu que Satan suggère depuis les origines, celle d'un Dieu qui ne veut pas notre bonheur. L'homme possédé de ce passage de l'Évangile sait que Jésus est Dieu. Mais cela ne l'amène pas à croire en lui. En fait, il dit « Es-tu venu pour nous perdre ?» Beaucoup de gens, même des chrétiens, pensent la même chose. Jésus est peut-être le Fils de Dieu, mais ils doutent qu'il veuille notre bonheur. Certains craignent même que prendre au sérieux sa proposition, ce que Jésus nous propose, signifie ruiner la vie, mortifier nos désirs, nos aspirations les plus fortes. Ces pensées nous traversent parfois l'esprit. Que Dieu nous en demande trop. Nous avons peur que Dieu nous demande trop, ou veuille nous enlever ce qui nous est le plus cher. Que, en somme, il ne nous aime pas vraiment. Au contraire, lors de notre première rencontre, nous avons vu que le signe de la rencontre avec le Seigneur est la joie. Quand je rencontre le Seigneur dans la prière, je deviens joyeux. Chacun de nous devient joyeux, une chose belle. La tristesse ou la peur, en revanche, sont des signes d'éloignement de lui. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, dit Jésus au jeune homme riche. Malheureusement pour ce jeune homme, certains obstacles ne lui ont pas permis de réaliser le désir qu'il avait dans son cœur, de suivre de plus près le bon maître. C'était un jeune homme intéressé, entreprenant. Il avait pris l'initiative de rencontrer Jésus. Mais il était aussi très partagé dans ses affections. Pour lui, la richesse était trop importante. Jésus ne le force pas à se décider. Mais le texte note que le jeune homme se détourne de Jésus, tout triste. Qui s'éloigne du Seigneur n'est jamais satisfait, même s'il a à sa disposition une abondance de biens et de possibilités. Jésus ne vous oblige jamais à le suivre, jamais. Jésus te fait connaître sa volonté de tout son cœur. Il te fait connaître les choses, mais il te laisse libre. Et c'est ce qu'il y a de plus beau dans la prière avec Jésus. La liberté qu'il nous laisse. Au contraire, quand nous nous éloignons du Seigneur, nous restons avec quelque chose de triste, quelque chose de mauvais dans le cœur. Discerner ce qui se passe en nous n'est pas facile, car les apparences sont trompeuses. Mais la familiarité avec Dieu peut doucement dissiper les doutes et les craintes, rendant notre vie toujours plus réceptive à sa douce lumière, selon la belle expression de Saint John Henry Newman. Les saints brillent de lumière réfléchie, et montrent dans les gestes simples de leur journée la présence aimante de Dieu, qui rend possible l'impossible. On dit que deux conjoints qui ont vécu ensemble longtemps en s'aimant finissent par se ressembler. On peut dire quelque chose de semblable de la prière affective. De manière graduelle mais efficace, elle nous rend toujours plus capables de reconnaître ce qui compte par connaturalité, comme quelque chose qui jaillit du fond de notre être. Être en prière ne signifie pas dire des paroles et des paroles. Être en prière signifie ouvrir son cœur à Jésus, s'approcher de Jésus, laisser Jésus entrer dans mon cœur et nous faire sentir sa présence. Et là, nous pouvons discerner quand c'est Jésus et quand c'est nous avec nos pensées. Très souvent loin de ce que Jésus veut. Demandons cette grâce. Vive une relation d'amitié avec le Seigneur comme un ami parle à un ami. Je me souviens d'un vieux frère religieux qui était le portier d'un collège et qui, chaque fois qu'il le pouvait, s'approchait de la chapelle, regardait l'autel et disait « Bonjour » parce qu'il était proche de Jésus. Il n'avait pas besoin de dire des paroles et des paroles. Non, « Bonjour, je suis proche de toi. » Et tu es proche de moi. C'est la relation que nous devons avoir dans la prière. La proximité. La proximité affective, comme des frères. La proximité avec Jésus. Un sourire, un simple geste, et ne pas réciter des paroles qui ne touchent pas le cœur. Comme je le disais, parler à Jésus comme un ami parle à son ami. C'est une grâce que nous devons demander les uns pour les autres. Voir Jésus comme notre ami le plus grand et notre ami fidèle, qui ne fait pas de chantage, et surtout qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous éloignons de lui. Lui, il reste à la porte du cœur. Non, je ne veux rien savoir avec toi, disons-nous. Et lui, il reste silencieux. Il reste là, à portée de main, à portée de cœur, car lui, il est toujours fidèle. Allons de l'avant avec cette prière. Disons la prière du bonjour, la prière de saluer le Seigneur avec le cœur, la prière de l'affection, la prière de la proximité, avec peu de paroles, mais avec des gestes et avec des œuvres bonnes. Merci. Chers auditeurs, merci de votre attention. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.